Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Il est 10h10 à Paris, bienvenue si vous nous rejoignez. Dans 30 minutes, comme tous les jours, nous lancerons un débat et nous vous attendrons évidemment dès maintenant au standard. Nous parlerons tout à l'heure des consultations nationales au Congo-Brazzaville, puisque hier, le président Denis Sassou Nguesso a lancé ses consultations. Il s'entretient avec les responsables des partis politiques, les acteurs de la société civile, mais aussi les chefs religieux. Et ces consultations, eh bien, elles interviennent alors que la société congolaise est particulièrement divisée sur la perspective d'une modification de la Constitution qui, selon l'opposition, permettrait au président sortant de briguer un troisième mandat. En tout cas, l'opposition a décidé de boycotter ces entretiens. Elle dénonce une mascarade. Comprenez-vous cette hostilité? On en parlera évidemment ensemble et vous nous direz forcément ce qu'on peut attendre et ce que vous attendez de ces rencontres. 33 9 693 693 70. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction, les questions pour mieux comprendre, mieux décrypter l'actualité. Vous connaissez le principe, hein, vous écoutez le journal des RFI, vous souhaitez un complément d'information, et bien c'est facile, vous nous appelez, toujours au même numéro, 33 9 693 693 70, et tous les matins, nous prenons 20 minutes pour répondre au plus grand nombre d'auditeurs. La première question nous vient du Tchad, de N'Djamena exactement. Bonjour Abdel.
Bonjour Juan, comment ça va?
Très bien, je vous remercie. Vous avez des questions, vous, concernant la course à l'investiture du Parti démocrate aux États-Unis en vue de l'élection présidentielle de l'année prochaine.
Exactement. J'ai appris récemment que Bernie Sanders, l'indépendant sénateur du Vermont, voulait devenir président des États-Unis. Donc je voulais savoir à ce propos s'il a des chances face à Hillary Clinton pour remporter la primaire démocrate, vu que Hillary Clinton avait perdu contre Barack Obama en 2008, même si tous les commentateurs nous avaient dit qu'elle aurait gagné.
Oui.
Et je voulais aussi savoir s'il pouvait avoir un impact, s'il ne gagnait pas, s'il pouvait avoir un impact sur la candidature des Hillary Clinton en vue des élections en novembre 2016.
Ouais, pour l'instant, Bernie Sanders est le seul candidat officiel face à Hillary Clinton, hein, dans les primaires démocrates. Bonjour Stéphanie Schuller.
Bonjour Juan, bonjour Abdel.
Journaliste au service international d'RFI. Bernie Sanders est certes populaire, on va dire, à la gauche du parti démocrate, mais concrètement, il n'a aucune chance face à Hillary Clinton.
Ouais, et je crois qu'il faut être vraiment très clair sur cette question, Juan. Même avec la meilleure stratégie du monde, les chances, en effet, de Bernie Sanders de battre Hillary Clinton aux primaires démocrates, je crois que sont vraiment quasi nulles. Et ceci, non seulement, Abdel, parce que le sénateur n'a pas la notoriété de l'ancienne première dame et ex-secrétaire d'État, mais aussi et surtout parce que Bernie Sanders ne bénéficie absolument pas des mêmes infrastructures, des mêmes réseaux influents que l'ultra-favorite du camp démocrate. Et puis, le point qui est encore plus important, c'est l'argent, bien sûr. Bernie Sanders compte sur les petites contributions individuelles pour financer sa campagne. Un peu, vous savez, à l'image de la stratégie qui a si bien réussi à Barack Obama en 2008. Mais il n'est que très peu probable que le candidat Sanders réussisse à créer cette mobilisation massive similaire au phénomène Obama. Et du coup, Bernie Sanders restera sans doute très loin derrière les moyens financiers assez considérables, il faut le dire, dont dispose Hillary Clinton. Alors actuellement, il faut le savoir, la favorite des sondages recueillent 64% d'opinions favorables parmi elles, les sympathisants démocrates qui s'expriment donc aux primaires contre seulement 7% pour Bernie Sanders.
Il y a tout de même 60 points qui séparent les deux candidats dans les opinions, dans les enquêtes d'opinion. Malgré tout, la candidature de Bernie Sanders pourrait-elle avoir un impact sur la campagne d'Hillary Clinton?
Oui, ça, en revanche, je crois que c'est assez probable même. Non seulement Bernie Sanders est-il le premier candidat, vous venez de le dire tout à l'heure, Juan, qui ose se lancer dans la course contre Hillary Clinton, mais il pourrait surtout l'obliger, Hillary Clinton, donc, à prendre des positions claires sur différents dossiers qu'elle a jusqu'ici évités.
Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que depuis des décennies, Bernie Sanders défend des positions à gauche de la gauche. Hein. Lui-même se définit d'ailleurs comme un socialiste.
Oui, tout à fait. Au Sénat, en fait, où il siège depuis 2006 en tant qu'indépendant avec le groupe démocrate, il est le seul parlementaire, en effet, à épouser cette étiquette socialiste. Et c'est assez étonnant quand on sait que rien que le mot pro-socialiste fait grimper au rideau la plupart des Américains. Donc c'est assez étonnant. Et pourtant, Bernie Sanders, fidèle à ses valeurs, a été réélu en 2012 au siège du sénateur du Vermont avec 71% des voix quand même. C'est un véritable triomphe.
Ouais, alors sur quel dossier concrètement Bernie Sanders pourrait-il gêner Hillary Clinton?
Eh bien, sur tous les dossiers en gros qui concernent de près ou de loin la défense de la classe moyenne, puisque c'est ça, comme vous le savez, le leitmotiv de la campagne Clinton. Sauf que, comme le souligne Bernie Sanders, sur certains points, la favorite des sondages manque de clarté. Alors, je vais vous donner deux exemples pour être un peu plus concret. Bernie Sanders critique depuis des lustres, vous le savez, un système qui permet aux plus riches de s'enrichir davantage, alors que les classes moyennes s'appauvrissent. Oui, il demande une réglementation et des contrôles, surtout plus stricts pour le secteur bancaire, alors que la position d'Hillary Clinton face à la grande finance n'est pas aussi arrêtée. Et même au sein du Parti démocrate, les liens entre les Clinton et Wall Street font grincer quelques dents. Autre exemple, le futur traité de libre-échange transpacifique que Barack Obama négocie actuellement. Dans le passé, peut-être vous vous souvenez, Hillary Clinton a soutenu de tels accords, mais elle n'a pas encore tranché sur celui-ci, alors que Bernie Sanders, lui, a toujours voté contre des tels accords de libre-échange, des traités tenus surtout par la gauche américaine pour responsables de la perte de nombreux emplois aux États-Unis.
Ouais, en un mot, est-ce que Hillary Clinton a réagi à la candidature de Bernie Sanders?
Ouais, alors Hillary Clinton sait évidemment qu'elle va devoir clarifier certains points dans sa campagne si elle veut être crédible pour le plus grand nombre, y compris justement pour l'aile gauche du Parti démocrate. Et du coup, elle a accueilli son rival par un message Twitter où elle a écrit « Je suis d'accord avec Bernie, notre objectif c'est la défense des classes moyenne. Je lui souhaite la bienvenue dans la course. »
Voilà qui est dit. Merci beaucoup Stéphanie Schuller. À bientôt.
Plaisir.
On va suivre évidemment mois par mois les primaires américaines,
oui,
démocrates
temps,
et
ouais.
républicaines. On a le temps. La course commence les votes commencent au mois de janvier,
c'est ça?
Oui, donc on a le temps. Merci Stéphanie, à bientôt.
Avec plaisir.
Abdel, bonne journée au Tchad. 33 9 693 693 70. On va parler tennis. Éric Mamrud du service des sports nous a rejoint. Bonjour Éric.
Bonjour Juan, bonjour tout le monde.
On est à quelques jours du coup d'envoi de Roland-Garros.
C'est dimanche.
Les internationaux de France, c'est dimanche. Thiernot, bonjour.
Bonjour Monsieur Wan et bienvenue à la baie. On vous écoute sur 89.9 et c'est 8h sur les 24h seulement.
Ben écoute, 8h sur 24 effectivement, oui c'est peu. Mais en tout cas, vous êtes un fidèle auditeur, merci à vous. Vous êtes en Guinée et vous avez, vous, des questions sur Raphaël Nadal.
Oui, en fait, j'ai appris sur RFI qu'il a été battu sur terre battue à Madrid par le Britannique Andy Murray. Du coup, il s'est retrouvé numéro 7 mondial.
Oui.
Qu'est-ce qui peut expliquer son multiple dégringolade au classement de numéro 1 mondial à numéro 7?
Ah, dégringolade.
C'est peut parler dégringolade.
Ah non, mais c'est peu de dire. Hein. Il est 7e au classement. Je crois que c'est son plus bas classement depuis 10 ans.
C'est ça. Depuis 2005, il n'avait jamais été classé aussi bas au classement. Alors, d'abord, il gagne moins. C'est simple. Il perd davantage que les années précédentes, en prenant en compte la saison sur terre battue, là, au printemps. 2015, c'est la plus mauvaise année de sa carrière. Tout simplement.
Je crois qu'il n'a gagné qu'un seul tournoi.
Il a gagné un tournoi à Buenos Aires.
À Buenos Aires, oui.
Et par la suite, durant les tournois de pré-Roland-Garros, il n'en a gagné aucun. Il a concédé 5 défaites, ce qui est de l'inédit depuis 2005, l'année où il a gagné pour la première fois Roland-Garros. Depuis, il avait toujours gagné soit Monte-Carlo, soit Madrid, soit Rome, soit les trois. Cette fois, aucune victoire dans un de ces grands tournois. Il a perdu contre Fabio Fognini, un Italien, 2 fois contre Andy Murray, contre Djokovic, contre Stan Wawrinka. Donc, la conséquence directe, vous gagnez moins. Bah, forcément, vous accumulez moins de points au classement et vous baissez. Là donc, il se retrouve 7e. Il y a une autre raison qui explique quand même cette baisse. C'est qu'en fin d'année dernière, il a été blessé au poignet. Il a pas joué. Et il a d'autant pas joué qu'il s'est fait opérer de l'appendicite. Donc pendant 2-3 mois, il n'a pas joué, donc il n'a pas pris de points. Comme le classement se fait sur les 12 derniers mois de l'année, le classement ATP, donc il n'a pas pu prendre des points. Donc aujourd'hui, il est un petit peu en déficit par rapport à sa moyenne habituelle, donc il se retrouve 7e.
En tout cas, Nadal n'est plus la machine à gagner. On a l'impression vraiment que ses adversaires n'ont plus peur de lui.
Forcément, il y a une petite part d'aura qui s'échappe un petit peu, même si quand même il faut resituer le contexte. Là, Roland Garros, il va tenter de gagner pour la 10e fois ce tournoi. C'est énorme. Il a gagné à 9 reprises. C'est surnaturel. quasiment. Et en tout cas, lui ne s'inquiète pas de cet état de forme précaire. Il y a des hauts, il y a des bas. Il a fait finale quand même lors de certains tournois, à Madrid notamment. Des fois, il a des coups de moins bien, ou il joue très mal. Mais lui, il s'inquiète pas. Il se dit, mon jeu revient petit à petit, et il est moins nerveux. Et il y a 3 semaines, il se disait, je suis très 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 nerveux sur le court. Là, ça commence à aller mieux. Il considère qu'il progresse. Et puis, il faut savoir qu'en 5-7, Roland-Garros se déroule sur la distance des 5-7, il est quasiment imbattable. Mmh. Puisqu'à Roland-Garros, il n'a concédé qu'une seule défaite. Et même sur toute l'histoire sur terre battue, il n'a concédé qu'une seule défaite dans un match en 5-7. Donc, sur une distance aussi longue, il est quasiment imbattable. Alors, est-ce que ça va suffire cette fois pour les autres, pour gagner Roland-Garros à sa place? C'est pas évident. En tout cas, il y a un homme qui est bien placé pour l'emporter pour la première fois de sa carrière, c'est Novak Djokovic,
qui est numéro 1, lui,
qui est numéro 1 mondial, qui gagne le tour en ce moment, c'est pas compliqué. Et lui, il rêve de battre enfin Nadal à Roland-Garros et de remporter ce grand chelem.
Ouais, en tout cas, Nadal a dit il y a quelques jours, je me battrai, donc.
Toujours, voilà. On le connaît, hein. Bah oui, c'est le taurillon de Manacor, l'ogre de l'ocre.
Et on se souvient d'ailleurs l'année dernière qu'en arrivant à Roland-Garros, il n'était pas non plus en pleine forme. Et puis, bon, voilà.
Il avait quand même gagné.
Merci beaucoup Eric Mamrut. D'ailleurs, il y a un tirage au sort demain.
C'est demain à midi.
Demain midi, et on aura évidemment les résultats du
tirage. Alors, une conséquence de ce classement, c'est qu'il pourrait retrouver Novak Djokovic, le numéro 1 mondial, dès les quarts de finale. En fonction du tirage au sort.
Ouais, ça risque d'être compliqué malgré tout pour Rafael Nadal. Voilà. Merci beaucoup Eric Mamrut.
Avec plaisir.
Tierno, bonne journée à la baie. Merci de nous écouter sur les 89.9. Ce sont vos questions à la rédaction. Des questions sur la réforme du collège en France. Bonjour Fiston.
Bonjour Monsieur Juan Gomez.
Vous nous appelez du Togo, on vous écoute.
Oui, j'ai appris donc sur l'antenne de RFI que le président français François Hollande a décidé donc faire la réforme du collège en France. Et j'ai à ce sujet 2 questions. En quoi consiste cette réforme? Et pourquoi cette réforme est-elle si contestée par la majorité des députés de l'UMP, et quelques députés socialistes?
Oui, et la contestation est d'autant plus vive qu'hier, au lendemain de la grève des enseignants, le décret de ce projet a été publié au Journal officiel. Autrement dit, la réforme entrera en vigueur en septembre prochain, à la rentrée scolaire. Bonjour Alice Pozic.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, journaliste au service France. Quel est l'objectif de cette réforme si contestée?
En fait, le gouvernement est parti d'un principe sur lequel tout le monde est plutôt d'accord. Il faut réformer le collège en France. Aujourd'hui, il y a encore 1 élève sur 4 qui arrive en 6e en ayant déjà des difficultés. Et ce retard se rattrape difficilement, surtout au collège. D'ailleurs, en 2013, une enquête de l'OCDE avait justement pointé du doigt le fait que le système français ne réussit pas à faire progresser ses élèves. Et puis, c'est pas tout, parce que ce rapport PISA disait aussi que l'école en France est très élitiste. Les enfants des milieux défavorisés ont encore aujourd'hui moins de chances de réussir que les autres. Il y a 3 fois moins d'enfants d'ouvriers qui ont le bac que d'enfants de cadre supérieur. Et ça, c'est l'argument de base de cette réforme, vouloir la réussite de tous les élèves.
Alors justement, Alice, que prévoit cette réforme pour atteindre cet objectif?
Alors, la réforme prévoit de dégager 20% de l'emploi du temps des élèves pour ce qu'on appelle des EPI, des enseignements pratiques interdisciplinaires, et de l'accompagnement personnalisé. L'accompagnement personnalisé, c'est un peu comme du soutien scolaire. Mmh. Les élèves travaillent en petits groupes sur leurs difficultés avec l'aide d'un professeur. En ce qui concerne les EPI, c'est un tout petit peu plus compliqué. En fait, l'idée, c'est d'intéresser les élèves à leur scolarité, de les impliquer un peu plus. Du coup, au lieu de n'avoir que des matières bien distinctes comme le français, les mathématiques, la physique, des professeurs de disciplines différentes vont travailler ensemble autour d'un même thème. Il y en a 8 en tout, sciences et sociétés, développement durable, langue et culture de l'Antiquité, j'en passe. Les collèges en choisissent 6 en fonction du profil et des besoins de leurs élèves.
Alors, cette réforme prévoit également des changements pour l'apprentissage des langues. On a beaucoup parlé du latin, du grec, de l'allemand ces derniers jours. Concrètement, ça signifie quoi comme changement?
Les classes bilangues qui permettaient aux élèves d'apprendre 2 langues étrangères dès la 6e au lieu de la 4e, ça c'est terminé, elles sont supprimées. Même chose pour les classes européennes qui offraient un apprentissage renforcé des langues étrangères. Alors pourquoi c'est supprimé? Parce que ces classes regroupaient souvent les très bons élèves en laissant de côté les autres. Trop élitiste, trop inégalitaire, dit le gouvernement, qui prévoit à la place que tous les élèves commencent à apprendre une 2e langue 1 an plus tôt qu'aujourd'hui, donc en 5e. C'est la même raison qui a poussé la ministre de l'Éducation à supprimer les options de grec et de latin, vous l'avez dit. Les bons élèves choisissaient ces options pour être dans les meilleures classes. Avec la réforme, l'option devait être remplacée par un enseignement l'enseignement interdisciplinaire. Mais après la fronde générale des profs et d'une partie des politiques, Najat Vallaud-Belkacem a décidé de maintenir une petite option en plus de l'EPI, une heure par semaine en cinquième et deux en quatrième et en troisième.
D'accord. Alors vous parliez, Alice, de polémique. C'est vrai que cette réforme est très controversée. Fiston nous demandait pourquoi les députés de l'UMP s'y opposent et surtout pourquoi certains députés socialistes sont également vent debout.
Ben alors, on parlait justement d'élitisme. La réforme, elle se veut plus égalitaire. Mais pour l'UMP, c'est plutôt du nivellement par le bas. C'est le terme qu'ils utilisent. C'est d'ailleurs l'objet de la lettre que le député UMP Bruno Le Maire a envoyée à François Hollande, une lettre signée par une centaine de députés de droite et du centre. Ils reprochent au gouvernement d'abandonner l'excellence républicaine. Ils vont même plus loin en parlant de naufrage pour la nation. En fait, pour l'UMP, il ne faut pas supprimer l'élite, mais plutôt faire en sorte que le plus d'élèves possible rentrent dans cette élite. La position du gouvernement, c'est plutôt de donner les mêmes chances à tout le monde. Mais Fiston, vous avez raison, hein, ça souffle aussi du côté des socialistes. Manuel Valls et François Hollande ont apporté leur soutien à la ministre de l'Éducation, mais certains au PS ont remis en question la réforme. Julien Drey et Aurélie Filippetti, ils regrettent tous les deux le peu de place accordée au latin et au grec et la suppression des classes bilingues.
À suivre donc, en tout cas demain sur l'antenne des RFI, Emmanuel Bastide reviendra sur la réforme du collège en France. 7 milliards de voisins posera cette question. Cette réforme peut-elle véritablement réduire les inégalités scolaires? Merci beaucoup Alice Posicki d'être venue répondre à Fiston qui nous appelait d'Aba Baware. C'est au Togo et merci à vous de nous écouter sur place. Des questions maintenant sur Mariam Sankara. C'est la veuve de l'ancien président burkinabé Thomas Sankara, assassiné il y a maintenant 27 ans. Bonjour Hassani.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous êtes à Ouagadougou?
Oui,
nous sommes à Ouagadougou. Oui. On vous écoute.
J'étais à l'aéroport de Ouagadougou quand la veuve de l'ancien président Thomas Sankara atterrissait au bord de d'Air France. Et ce fut une très grande foule. Alors Juan, j'ai une question. Qu'est-ce qui explique l'arrivée triomphale de Mariam Sankara?
Ouais, c'est vrai que le moins qu'on puisse dire, c'est que son arrivée à Ouagadougou a été triomphale. C'était la première fois depuis 2007 hein, que Mariam Sankara revenait à Ouagadougou. Yaya Boudani, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour Hassani.
Vous êtes le correspondant des RFI au Burkina Faso. Vous étiez ce jour-là à l'aéroport. Des milliers de personnes avaient fait le déplacement. Comment expliquer un tel accueil?
Alors, c'est simple à expliquer, Juan. Tous ceux qui parlent de Thomas Sankara aujourd'hui ne l'ont pas connu. Il a été assassiné, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a 27 ans maintenant. Et quand on regarde tous ces jeunes qui sont venus à l'aéroport, ils ont entre 15 et 25 ans. Alors, seuls quelques-uns ont connu la période révolutionnaire. Mais avec les discours, les projections de films et les conférences sur l'œuvre de Thomas Sankara, de nombreux jeunes ont été séduits par sa lutte et ils s'identifient même à lui. Et Thomas Sankara reste, comme vous le savez, un mythe vivant pour la jeunesse burkinabé voire africaine, donc cela réjaillit forcément sur sa veuve.
Ouais, c'est vrai que 27 ans après sa mort, Thomas Sankara reste une icône du panafricanisme. On a déjà eu l'occasion d'en parler dans cette émission. D'ailleurs, durant l'insurrection populaire qui a conduit la chute du président Blaise Compaoré en octobre dernier, on se souvient que de nombreux jeunes faisaient référence à lui pendant les manifestations. Du coup, Yaya, son épouse finalement navigue sur cette vague de popularité.
Thomas Sankara fut, il faut le rappeler, un mythe vivant. Donc, il fut l'un des présidents qui avait un sens de l'honneur qui se fait rare aujourd'hui chez les dirigeants africains. Et cette admiration n'est d'ailleurs pas démentie à travers le monde quand on voit des organisations diverses un peu partout qui s'en réclament et des infrastructures qui portent son nom. Et puis, Mariam Sankara a su conserver ses mêmes valeurs, discrète et digne dans sa souffrance. Elle incarne la respectabilité. Alors, première dame, elle n'a jamais été dans les excès et quand son mari a été assassiné, elle a su assurer l'éducation de leurs enfants dans la douleur et la dignité. Et pendant 27 ans, durant son exil forcé, il n'y a jamais eu de sa part quelques écarts de comportement. Donc, vous voyez cela, Mariam est considérée également comme un mythe auprès de toute cette jeunesse africaine-là.
D'où l'accueil réservé, donc, il y a quelques jours pour son grand retour à Ouagadougou. Merci, Yaya Boudani. On vous rappellera certainement dans les prochains jours. On a d'autres questions sur Mariam Sankara et d'ailleurs sur son avenir. Va-t-elle se lancer en politique? On vous rappellera très vite. Yaya Boudani, correspondant des RFI au Burkina Faso. Restez avec nous dans un instant le journal. Ce sera la dernière édition d'Afrique Matin et on reviendra dans 10 minutes pour lancer notre débat sur les consultations nationales au Congo-Brazzaville. Depuis hier, le chef de l'État reçoit tous les acteurs politiques, en tout cas ceux qui acceptent de s'entretenir avec lui. À tout de suite.